إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Parmi les grâces, voire les plus grandes grâces, qu'Allah tabaraka wa ta'ala a accordé à cette communauté figure une dont beaucoup de musulmans ne mesurent plus aujourd'hui la valeur, à savoir la langue arabe. Il est frappant de constater qu'à notre époque, nombreux sont ceux qui s'intéressent à toutes sortes de sciences, qui y consacrent des années de leur vie, que ce soit les langues étrangères ou autres. Ils dépensent des sommes considérables pour obtenir des diplômes et des certifications. Mais lorsqu'il s'agit de la langue dans laquelle Allah tabaraka wa ta'ala a révélé son livre et dans laquelle son messager sallallahu alayhi wa sallam a parlé, il la considère comme une science secondaire réservée à quelques spécialistes ou aux seuls étudiants avancés. Même s'ils ne le disent pas ouvertement, mais dans la pratique, cela se constate inévitablement. Et cette vision est une erreur profonde. La langue arabe n'est pas simplement un patrimoine culturel. Elle n'est pas davantage une langue que l'on apprend uniquement pour apprécier la poésie préislamique ou la littérature classique. Elle est avant tout la langue choisie par Allah tabaraka wa ta'ala pour transmettre sa dernière révélation à l'humanité. Elle est le récipient du Coran, le véhicule de la Sunna, la clé de compréhension de la croyance, des actes d'adoration, des règles juridiques et de toute la religion. C'est pourquoi les premières générations ne séparaient jamais la science religieuse de la langue arabe. Ils savaient qu'il est impossible de comprendre pleinement le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala sans comprendre la langue arabe dans laquelle il l'avait révélé. Aujourd'hui, cette réalité s'est progressivement estompée. Certains, si ce n'est beaucoup, voire la majorité, pensent pouvoir comprendre le Coran uniquement à travers des traductions. D'autres estiment que la langue arabe est difficile, inaccessible, voire secondaire pour le musulman qui ne souhaite pas devenir savant. D'autres encore vont jusqu'à tourner en dérision ceux qui s'efforcent de parler un arabe correct, comme si le soin apporté à la langue était une forme d'ostentation. Combien prennent en raillerie ceux qui tentent, malgré les difficultés, de s'exprimer en langue arabe, ne serait-ce qu'avec quelques mots, qui mettent des post-it ici et là pour utiliser ce vocabulaire. Et les gens qui viennent alors et leur disent de ne pas en faire trop. Toutes ces idées sont étrangères à la voix des pieux prédécesseurs et des premières générations. Eux considéraient la langue arabe comme une partie intégrante de la religion. Ils savaient qu'à mesure que la langue arabe s'affaiblit, la compréhension de la religion s'affaiblit également. Plus une communauté s'éloigne de la langue de la révélation, plus elle devient dépendante des interprétations des autres et plus les erreurs se multiplient. Voilà pourquoi il est indispensable de revenir au fondement et de redonner à la langue arabe la place qui lui revient. Le sujet de cette conférence n'est donc pas un simple éloge de l'arabe en tant que langue. Il s'agit surtout de comprendre pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala l'a choisi parmi toutes les langues de l'humanité. Quelles sont ses particularités? Quel lien elle entretient avec notre religion? Et pourquoi les savants de l'islam ont constamment encouragé son apprentissage? Car celui qui comprend la place de la langue arabe comprendra également pourquoi les pieux prédécesseurs lui accordaient tant d'importance et pourquoi ils considéraient son apprentissage comme une œuvre d'adoration lorsqu'il est entrepris pour rechercher la face d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Azza wa Jal n'a pas choisi cette langue sans raison. Il aurait pu révéler son livre dans n'importe quelle autre langue. Mais sa sagesse parfaite a voulu que le dernier livre descende en arabe. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit « Inna anzalnahu qur'anan arabiyya la'allakum ta'aqilun » Nous l'avons fait descendre comme un Coran en langue arabe, afin que vous raisonniez. Et Allah Azza wa Jalla dit également « وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْدِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍ مُبِينٍ » Il est véritablement une révélation du Seigneur des mondes. L'Esprit fidèle est descendu avec lui sur ton cœur, afin que tu sois du nombre des avertisseurs, et en une langue arabe parfaitement claire. Ces versets, ils attirent immédiatement notre attention sur une réalité essentielle. Allah tabaraka wa ta'ala ne dit pas seulement que le Coran est descendu en arabe. Il précise qu'il est descendu en une langue arabe claire. Bilisanin arabiyin mubin. Cette précision, elle n'est pas anodine. Elle montre que la langue arabe possède une capacité unique à exposer les vérités avec clarté, précision et éloquence. Elle est une langue dans laquelle les significations peuvent être exprimées avec une finesse remarquable. Un simple changement dans l'ordre des mots, dans la déclinaison, dans la forme verbale ou dans l'emploi d'une particule peut produire une nuance que de nombreuses autres langues sont incapables de restituer. Combien de formes pouvons-nous donner à une phrase en français? C'est très limité. Alors qu'en langue arabe, il y a une multitude d'expressions, de façons d'exprimer cela. On ne peut pas retrouver cette finesse dans une autre langue. C'est précisément cette richesse qui fait de la langue arabe le récipient idéal de la révélation et la raison pour laquelle Allah tabaraka wa ta'ala a décidé de révéler cette religion dans cette langue. Le Coran est le discours d'Allah tabaraka wa ta'ala, le plus parfait des discours. Il convenait donc que le véhicule de cette parole soit lui aussi la plus noble et la plus éloquente des langues. C'est pourquoi les spécialistes de la rhétorique arabe ont montré que l'arabe possède une extraordinaire richesse lexicale, une remarquable souplesse grammaticale et une précision exceptionnelle dans l'expression des significations. Lorsque on médite sur les procédés de restriction, d'insistance, d'anticipation, de retardement, d'omission volontaire, de concision ou de développement, permettant d'exprimer avec exactitude des nuances extrêmement fines. Voilà ce que l'on découvre. Ce n'est pas simplement des mots les uns derrière les autres. C'est pour cette raison que les traductions, aussi utiles soient-elles, elles ne pourront jamais remplacer le texte révélé. D'ailleurs, l'adage, bien connu chez les traducteurs, nous dit « traduire, c'est trahir ». Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas restituer l'âme, le souffle de l'origine. Voilà pourquoi il est important de se pencher sur l'apprentissage de la langue arabe, quand bien même on ne se destine pas à la spécialisation dans le domaine des sciences religieuses. Tout musulman se doit de s'efforcer dans l'apprentissage de la langue arabe. Tout musulman se doit d'essayer de pratiquer cette noble langue, choisie par Allah tabaraka wa ta'ala, pratiquée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on parle de langue arabe, on parle bien évidemment de ce qu'on appelle l'arabe classique. Ou alors, pour certains autres, l'arabe littéraire. On ne parle pas ici du dialectal. Le dialecte n'est pas la langue arabe. Il suffit de regarder les nouvelles générations. Combien de parents parlent la langue arabe? Ils parlent à leurs enfants en langue arabe et leurs enfants leur répondent dans une autre langue, en français ou autre. Et même ça, on le voit avec les dialectes. Alors que lorsque l'on regarde les générations précédentes, les enfants parlaient cette langue couramment. Mais plus les générations avancent, et plus on voit que les enfants ne maîtrisent plus la langue, même maternelle. Que dire alors de la langue arabe? Mais parce que les parents eux-mêmes ne pratiquent plus la langue arabe dans les foyers. Alors qu'ils en ont la capacité. Et c'est de leur responsabilité de l'étudier et de l'enseigner. Comme on l'a dit, une traduction, elle ne va transmettre qu'une partie du sens. C'est pourquoi les savants ont toujours rappelé qu'une traduction n'est pas le Coran. C'est l'essence du Coran. Elle n'est qu'une explication approximative de certains de ses sens. Celui qui veut alors comprendre la meilleure parole, la parole la plus véridique, la parole de son Seigneur, comment peut-il négliger la langue arabe? Alors qu'il ne pourra pleinement comprendre la parole de son Seigneur qu'en apprenant la langue arabe, la meilleure des paroles. On va voir aujourd'hui des jeunes fascinés par un univers, les mangas, ou encore par un pays, une culture, apprendre la langue de ce pays. Mais tristement, lorsqu'il s'agit de la parole divine, celle qui va le rapprocher de Rabb al-Alamin, qui va être une cause de pouvoir lui permettre d'accéder à la miséricorde d'Allah et au paradis, alors il n'y a que peu d'efforts qui sont fournis. Cette réalité, elle doit nous conduire à une réflexion profonde. Si Allah tabaraka wa ta'ala a choisi cette langue pour porter son dernier message, comment le musulman pourrait-il la considérer comme une science secondaire? Comment pourrait-il passer des années à apprendre d'autres choses, des langues pour les affaires, les études ou les voyages, tout en négligeant la seule langue qui lui permet d'accéder directement à la parole de son Seigneur? C'est cette prise de conscience qui animait les premières générations de cette communauté. Pour elles, apprendre la langue arabe n'était pas une question de prestige intellectuel. C'était un moyen de mieux connaître Allah tabaraka wa ta'ala. C'était un moyen de mieux comprendre le Coran. C'était un moyen de mieux suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi les premières générations considéraient l'apprentissage de la langue arabe comme une véritable adoration. Et comment cette langue est devenue, au fil des siècles, la clé de toutes les sciences de l'islam. Quand on a compris qu'Allah tabaraka wa ta'ala a choisi la langue arabe pour être le véhicule de sa dernière révélation, une question s'impose naturellement. Pourquoi les savants de l'islam ont-ils accordé une telle importance à son apprentissage? Pourquoi retrouve-t-on dans les biographies des imams une insistance constante sur l'étude de la langue arabe avant même certaines autres disciplines? On voit qu'au début de leur parcours scientifique, ils ont commencé par l'étude de la langue arabe, avant d'aller étudier d'autres disciplines. La réponse, elle est simple. Parce que la religion ne peut être comprise correctement qu'à travers la langue dans laquelle elle a été révélée. Ainsi, celui qui progresse dans cette langue progresse naturellement dans sa compréhension de la religion. À l'inverse, celui qui s'en éloigne devient progressivement dépendant des traductions. Plus le voile linguistique est épais, plus la compréhension elle devient fragile. C'est pourquoi les salafs ne considéraient pas la langue arabe comme une science annexe. Ils la regardaient comme la porte d'entrée vers toutes les autres sciences. L'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, disait d'ailleurs « Ta'allamu l'arabiyya fa'innaha tazidu fil aql » Apprenez la langue arabe, car elle fait augmenter l'intelligence. Cette parole, elle est connue de tous. Elle est propagée sur les réseaux sociaux. Mais elle est peu comprise. Car cette parole est d'une profondeur remarquable. L'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, ne dit pas seulement qu'elle permet de mieux parler. Il affirme qu'elle développe l'intelligence elle-même. Pourquoi? Parce que la langue arabe apprend à distinguer les nuances. Quand on apprend véritablement la langue arabe, on apprend à distinguer les nuances, à ordonner les idées, à comprendre les rapports entre les mots et les significations. Elle appuie donc l'esprit à la précision. Voilà pourquoi elle augmente l'intelligence. Lorsqu'un étudiant apprend la grammaire arabe, le sarf, ou encore al-balagh, ou les subtilités du vocabulaire arabe, il exerce continuellement son raisonnement. car il apprend à distinguer ce qui est général de ce qui est particulier, ce qui est considéré comme absolu de ce qui est considéré comme restreint, de l'ordre des informations, de l'implication d'une simple particule et les conséquences d'une déclinaison grammaticale. Ce n'est donc pas simplement sa langue qui se développe, c'est son esprit tout entier. C'est également pour cette raison que certains disaient « Al-Arabiyya fa'sul uloum ». Si on veut traduire cet adage, on pourrait dire que la langue arabe est la hache des sciences. Cette image, elle est particulièrement parlante. Parce qu'une hache, elle sert à quoi ? Elle sert à ouvrir un passage dans une forêt. Elle enlève les obstacles qui empêchent d'avancer. Il en est exactement de même de la langue arabe. Celui qui a la langue arabe, elle lui permet de progresser dans cette forêt qu'est la science, dans les autres disciplines qui l'empêchent d'avancer sans celle-ci. Celui qui la possède, qui possède la langue arabe, il voit devant lui s'ouvrir les portes de l'exégèse, du tafsir, du hadith, du fiqh, des fondements du droit, al-qada, de la croyance, de la jurisprudence, des paroles des compagnons et même des explications des grands imams. À l'inverse, celui qui néglige cette langue, il rencontrera des obstacles à chacune de ses sciences. Ce n'est donc pas sans raison que les premières générations commençaient l'instruction de leurs enfants par le Coran et par la langue arabe, avant même d'aborder les longues discussions juridiques ou théologiques. Ils consolidaient l'outil indispensable à toute compréhension, la langue. Lorsque l'on ouvre les ouvrages de biographie, on retrouve constamment des expressions telles que « il a pris le Coran, la langue arabe et les belles lettres ». Ou encore « il maîtrisa la langue avant de se consacrer au hadith ». Il savait que les textes religieux parlent en arabe, pensent en arabe et argumentent en arabe. Eux-mêmes étaient des arabes. Le Coran n'emploie pas un vocabulaire approximatif. Chaque mot est sélectionné avec une précision parfaite. Combien de jugements juridiques reposent sur une seule préposition ? Combien de divergences entre les juristes trouvent leur origine dans une nuance grammaticale ? Combien d'erreurs doctrinales sont nées d'une mauvaise compréhension d'un mot arabe ? Voilà pourquoi les grands imams étaient aussi de grands linguistes. Lorsque l'on observe l'imam Malik, il connaissait parfaitement la langue. De même pour l'imam Shafi'i, il était reconnu parmi les plus éloquents de son époque. Ainsi que l'imam Ahmed, qui fréquentait les spécialistes de la langue. Ou encore Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, qui ira même jusqu'à affirmer que l'habitude de parler la langue arabe fait partie des moyens qui permettent de ressembler aux premières générations de cette communauté. Car la langue exerce une influence sur la pensée, sur le comportement et sur la manière de comprendre les textes. La langue n'est donc jamais neutre. Elle façonne notre manière de raisonner. Observez le colonialisme. Parmi les quatre points capitaux, le fait de retirer la langue arabe dans les pays arabes. Pourquoi ? Parce que lorsqu'un peuple est coupé de cette langue, il est coupé de la révélation, il est coupé de la religion, il est plus malléable. Voilà pourquoi il est important de retourner à l'apprentissage de la langue arabe. Comme on le disait, et on le voit aujourd'hui encore, l'abandon de la langue arabe a mené progressivement à un affaiblissement de la religion elle-même. Regardez les endroits où est-ce que la langue arabe est encore présente, forte. Voyez la pratique religieuse. Voyez les endroits où la langue arabe est moins présente, voire absente. Et regardez la pratique religieuse. Pourquoi ? Parce que les gens sont dépendants d'interprétation. Ils sont dépendants de traduction. Voilà pourquoi les premières générations ne voyaient pas la langue arabe comme un simple moyen de communication. Ils voyaient au contraire le récipient de la révélation. Cette réalité, elle apparaît encore plus clairement lorsque l'on observe la manière dont les savants traitaient les erreurs de langue. Aujourd'hui, beaucoup considèrent les fautes grammaticales comme un détail sans importance. Mais lorsque l'on observe les biographies des premières générations, que ce soit des narrateurs ou des imams, on voit que celui qui, maintenant, commettait des fautes, était blâmé. On va trouver dans sa biographie Kana yalhan. Il commettait des fautes. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient beaucoup plus vigilants et exigeants. Non par orgueil linguistique, mais parce qu'une simple voyelle pouvait modifier le sens d'un verset, d'un hadith ou d'une parole juridique. Il suffit de regarder certains versets du Coran, de regarder certaines phrases, pour voir à quel point il est important de se pencher sur l'apprentissage de la langue arabe. Si on dit « Daraba Moussa Isa », qui est celui qui a frappé ? Qui est celui qui a reçu le coup ? Lorsque l'on voit le verset dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala nous dit « Wa idibtala Ibrahim rabbuhu » Beaucoup commettent la faute. Et ils disent « Iyadan billah, wa idibtala Ibrahim rabbahu » Comme si c'était Ibrahim qui allait maintenant éprouver son créateur. Pourquoi ? Parce qu'ils pensent que celui qui est mentionné directement après le verbe est l'acteur. Voilà pourquoi il est important de ne pas commettre de faute, même sur les voyelles. Le simple fait de changer une fatha par une dhamma fait changer maintenant l'ordre, les significations. Hamad ibn Salama, rahimahullah ta'ala, disait d'ailleurs, celui qui recherche le hadith sans apprendre la langue arabe est semblable à un âne portant une besace vide. Cette image est saisissante. Il possède l'apparence de celui qui transporte une provision, mais son sac est vide. De la même manière, celui qui accumule les hadiths sans posséder l'outil permettant de les comprendre, il risque de transporter un immense savoir sans en saisir véritablement les subtilités, comme Allah tabaraka wa ta'ala nous le dit. كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا. Voilà pourquoi les savants insistaient tellement sur l'étude de la langue avant de se lancer dans les sciences les plus complexes. Aujourd'hui, tristement, on voit des jeunes se lancer dans les sciences alors qu'ils ne maîtrisent rien de la langue arabe. On ne dit pas qu'il faut devenir sibawai avant de se lancer dans l'apprentissage des sciences religieuses. Mais il faut avoir un minimum pour pouvoir distinguer et pour pouvoir aussi prendre le savoir directement des gens de science. De se passer des prédicateurs qui sont là simplement pour faire un relais. Des traductions qui sont souvent, malheureusement, approximatives. Voire, et ça on le voit aujourd'hui avec des personnes qui se spécialisent et les moyens techniques, fausses, erronées. Pourquoi ? Parce que malheureusement, pendant des années, nous avons été dépendants de personnes qui ont étudié auprès des gens de science et simplement parce qu'ils avaient un bilinguisme, il se pensait capable de traduire. Or, la traduction est une matière, c'est un art. Ce n'est pas à la portée de tous, ce n'est pas parce que tu es un étudiant en sciences auprès des gens de sciences que tu as maintenant les compétences pour traduire. Oui, tu as les compétences pour enseigner certaines matières religieuses, certaines connaissances. Mais est-ce que tu as la capacité de les enseigner dans une langue étrangère ? Est-ce que tu maîtrises suffisamment cette langue étrangère, toi-même ? Combien malheureusement de prédicateurs et d'étudiants en sciences commettent des fautes gravissimes en français. Mais malgré ça, ils traduisent des ouvrages, ils traduisent des cours de savants. Il faut se cantonner à ce que chacun sait faire. Donc l'étudiant doit, celui qui veut apprendre sa religion, il doit apprendre une part de la langue arabe. Et comme je l'ai dit, je le répète, on ne dit pas qu'il doit devenir sibawai. Non. Mais on dit qu'il doit apprendre une part de la langue arabe qui lui permet de pouvoir comprendre sa religion, sans avoir besoin de passer par des intermédiaires et des traducteurs. Voilà ce que l'on dit. On ne demande pas à chaque musulman de devenir un spécialiste dans la grammaire, mais il faut qu'il connaisse un minimum de grammaire pour pouvoir comprendre qui est l'acteur de celui qui subit l'action, qui est le sujet, quel est le verbe. Mais d'avoir aussi une compréhension de la langue arabe et de ses significations, de comprendre les mots. Qu'est-ce qu'ils signifient ? Comme on l'a dit, les savants, ils insistaient tellement sur l'étude de la langue arabe, ils savaient justement qu'une construction solide, elle commence toujours par des fondations solides. Tout le monde sait que « man harrama al-usul, hurima al-usul ». Celui qui bâcle les fondements n'aura pas les capacités de pouvoir évoluer. Mais combien le font véritablement ? Combien prennent le temps d'étudier les outils qui vont leur permettre de pouvoir accéder à la fin du chemin? Il est impératif de passer par des étapes primordiales pour pouvoir évoluer convenablement, Sans quoi la personne, elle va partir à droite et à gauche, elle va se perdre, elle va s'essouffler et souvent, elle va s'arrêter sur le chemin. Il est important de prendre les recommandations et de suivre les conseils. Malheureusement, beaucoup de personnes entendent les conseils. Mais comme on dit, les conseils, on les donne parce qu'on est déjà tombé dans le trou. Et on veut éviter aux personnes de tomber dans le même trou. Mais impérativement, ils veulent tomber dans le même trou. Et ça, on le constate tous les jours. Combien de personnes se lancent dans l'étude de la science? On donne ce genre de conseils et malgré cela, on les voit se disperser à droite et à gauche. Comme une fois, Cheikh Abdel Bari Al-Ansari, Hafidhullah Ta'ala, le fils de Cheikh Ahmed, disait, un frère qui est venu à Médine lui posait la question, « Cheikh, je veux prendre vos recommandations pour évoluer dans la science. Qu'est-ce que vous me recommandez d'étudier en premier ?» Le Cheikh lui a automatiquement donné le conseil de s'orienter vers l'apprentissage de la langue arabe parce que c'est la clé de tout. Mais le frère, peut-être une ou deux semaines après, a re-rencontré le Cheikh et le Cheikh a pris de ses nouvelles, lui a dit « Alors, comment se passent tes études dans la langue arabe ?» Et le frère de lui dire « Non, mais Cheikh, en fait, le Coran, c'est trop important, donc j'ai délaissé l'apprentissage de la langue arabe pour apprendre le tajwid. » Regardez comment Shaitan, il joue avec l'insan. Donc le frère a délaissé l'apprentissage de la langue arabe pour s'orienter vers l'apprentissage du tajwid. Malgré le fait qu'il ait pris les conseils auprès du Cheikh, que le Cheikh ait pris le temps de le conseiller, qu'il ait pris le temps de lui donner des recommandations comme il aurait aimé les recevoir lui-même, parce qu'il aime pour lui ce qu'il aime pour lui-même. Mais le Cheikh a fait des invocations en sa faveur en demandant à Allah tabaraka wa ta'ala de lui accorder le succès et de lui faciliter. Quelques temps après, le Cheikh l'a encore rencontré et lui a demandé « Alors, où en es-tu dans ton apprentissage du tajwid ?» Et là, le frère de lui dire « Cheikh, en réalité, j'adore Allah tous les jours, donc il faut que j'apprenne le fiqh, il faut que j'apprenne à adorer Allah correctement, donc je reviendrai sur l'apprentissage du tajwid plus tard. » Et ainsi de suite. Voilà, il a commencé à fluctuer de science en science, sans avoir un planning stable, sans avoir un chemin sur lequel cheminer convenablement. Et à la fin, les années sont passées, et malheureusement, il n'a acquéri que peu de savoir, voire pas du tout. Ce conseil-là, il a été répété et répété et répété depuis des années. Malheureusement, on voit que ce conseil n'est que trop peu appliqué. La langue arabe est précisément l'une des plus grandes fondations de la science religieuse. Cet intérêt pour la langue arabe, chez les plus prédécesseurs, il ne relevait pas uniquement d'une recherche de perfection intellectuelle, comme on l'a dit. Il considérait l'apprentissage de cette langue comme une véritable adoration. Bien évidemment, lorsqu'il était entrepris avec une intention sincère. Car préserver la langue de la révélation, c'est participer à la préservation de la religion elle-même. Tu deviens un ambassadeur. Lorsque les savants des premières générations exhortaient les musulmans à apprendre la langue arabe, leur objectif n'était pas de former des littéraires, des poètes, des orateurs. Leur préoccupation était bien plus noble. Ils voulaient préserver la compréhension de la révélation et protéger la religion contre les erreurs qui naissent inévitablement lorsque l'on s'éloigne de la langue dans laquelle Allah tabaraka wa ta'ala a révélé son livre. Et c'est pourquoi ils considéraient que l'apprentissage de la langue arabe pouvait devenir une véritable adoration. Cette affirmation, elle peut surprendre certaines personnes. Ils peuvent se dire que c'est simplement une langue que l'on apprend. Elles se demandent comment justement l'étude d'une langue, elle pourrait être assimilée à un acte d'adoration. La réponse, elle réside dans la règle fondamentale de l'islam. Les moyens prennent le jugement de leur finalité. Si tu ne peux pas accéder à cette finalité sans prendre ce moyen-là, alors ce moyen-là prend le jugement de la finalité. Une chose qui conduit au haram, même si en elle-même elle n'est pas haram, elle le devient parce qu'elle te mène au haram. Une chose au contraire maintenant qui t'emmène vers ce qui est obligatoire, même si elle n'est pas obligatoire en elle-même, elle le devient. Voilà pourquoi certains savants ont même considéré la langue arabe comme une obligation, l'apprentissage de la langue arabe comme une obligation. Lorsqu'un musulman apprend la langue arabe pour mieux comprendre le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, pour méditer ses versets, pour saisir les paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sans intermédiaire, sans interprétation, pour préserver sa récitation du Coran, pour comprendre les ouvrages des savants et transmettre la religion correctement. Alors, chacune des heures qu'il consacre à cet apprentissage devient un acte par lequel il espère la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'apprend pas cette langue pour être admiré. Il ne la maîtrise pas pour dominer les autres dans les assemblées et montrer que lui, il maîtrise cette langue alors que les autres ne la maîtrisent pas. Il ne cherche pas à impressionner son entourage par un vocabulaire recherché ou une éloquence artificielle. Non, son intention est plus élevée que cela. Il cherche à comprendre la parole de son Seigneur. Les premières générations étaient parfaitement conscientes de cette réalité. Voilà pourquoi il plaçait la langue arabe parmi les premières sciences à acquérir. Il en est de même pour les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Souvent, on parle du Coran. Mais il en est de même pour la sunna. Les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles possèdent une précision extraordinaire. C'est pourquoi, justement, là aussi, une simple particule, elle peut modifier le sens juridique d'un hadith. Une variation grammaticale, elle peut faire apparaître une règle qui resterait invisible à celui qui ne connaît pas la langue arabe derrière lui. Voilà pourquoi, plus le musulman progresse dans la langue arabe, plus il découvre des trésors qu'aucune traduction ne peut lui offrir. C'est également pour cette raison que les savants, ils considéraient que la langue arabe faisait partie des moyens les plus importants permettant de protéger la religion des innovations et des mauvaises compréhensions. Lorsqu'on observe les groupes égarés, combien justement se sont écartés de la voie droite sur une compréhension approximative des textes. Combien de déviations doctrinales sont nées parce que certains lisaient les traductions sans maîtriser les expressions employées dans le Coran et la Sunna? L'histoire de la pensée islamique elle-même montre que la connaissance de la langue a toujours constitué un rempart contre les interprétations erronées. Cela ne signifie évidemment pas que chaque musulman doive devenir un grammairien ou un spécialiste de la rhétorique. On l'a dit, ce n'est pas le but. La législation, elle ne demande pas à tous et à toutes d'atteindre le niveau des grands imams de la langue. En revanche, chacun doit apprendre ce qui lui est nécessaire pour adorer Allah correctement et comprendre sa religion selon ses capacités. L'étudiant en sciences, quant à lui, ne peut se contenter d'un niveau superficiel. Bien évidemment, lui, il doit acquérir un niveau supérieur. Comme on l'a déjà dit, l'apprentissage de la langue arabe est important pour tous. C'est la manière de l'acquérir et le niveau à acquérir qui est différent chez chacun, en fonction des intentions. Celui qui souhaite se spécialiser dans le domaine de la science devra obligatoirement passer par certaines étapes. Il devra maîtriser la grammaire, la rhétorique. En revanche, une personne maintenant qui ne se destine pas à l'étude de la science et sa transmission, alors elle devra maîtriser quelques notions de la langue arabe qui lui permettront de comprendre la parole d'Allah, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, l'étudiant, bien évidemment, lui, il va devoir acquérir un niveau bien plus important, sans quoi il ne serait pas en mesure d'expliquer le Coran, étant donné que lui-même ne comprend pas la langue dans laquelle il a été révélé. De même qu'il ne pourra pas enseigner les hadiths, étant donné qu'il n'en a pas saisi les subtilités des formulations prophétiques. Comme il ne pourra pas arbitrer entre plusieurs avis juridiques, étant donné qu'il ne connaît pas les nuances sur lesquelles reposent parfois ces divergences. Combien de fois nous l'avons répété? Malheureusement, parce que certaines personnes zélées ont donné accès aux propos des gens de science, on voit aujourd'hui des personnes qui ne maîtrisent ni la langue arabe, ni les sciences religieuses, faire des débats sur des sujets de jurisprudence complexes, à propos desquels les imams ont passé des nuits à débattre, sans arriver à un résultat unanime. Mais eux, sans même avoir la langue arabe, juste parce qu'il est parti sur Internet, il a tapé un mot-clé, il a vu que tel cheikh aurait tenu tel propos, et je dis bien aurait tenu parce qu'il est dépendant de la traduction de celui qui l'a mise en ligne. Reste à vérifier si ce traducteur en a les compétences, s'il est resté fidèle au sens original des propos de cet imam. Puis il vient et il veut imposer son avis. Alors qu'il ne maîtrise pas la langue arabe, il est dépendant d'un traducteur. Alors que lorsqu'on lui pose la question sur quel point ont divergé les gens de science sur ce sujet, il est incapable de l'expliquer. Il ne sait pas si c'est l'authentification d'un hadith, si c'est sur un rapporteur, et quand bien même ça serait sur un rapporteur, pourquoi tel avis est à rejeter, tel avis est à retenir, et ainsi de suite. Mais malgré cela, parce qu'il a accès à ce savoir, il se pense capable de pouvoir débattre. Non, tu te dois de passer par l'apprentissage de la langue arabe pour accéder à tout cela. Les grands savants de l'islam ont consacré de nombreuses années de leur vie à l'étude de la grammaire, du sorf, du balara, al-shi'r, avant même de prétendre parler au nom de la religion. Mais aujourd'hui, on a des personnes qui veulent directement parler au nom de la religion. Ces imams, Eux ne considéraient pas ces sciences comme des connaissances accessoires, mais comme les instruments indispensables permettant d'accéder à la compréhension authentique des textes. C'est pourquoi je l'ai dit et je le répète. Bien évidemment que personne ne va dire la langue arabe, c'est secondaire. Personne ne va venir dire ça. Tout le monde sait que ces propos ne tiennent pas la route, qu'il va se faire réfuter. Mais dans les faits, comment se comporte-t-il avec la langue arabe? Est-ce qu'il l'apprend? Est-ce qu'il passe des heures à apprendre et la pratiquer? Ou au contraire, il passe des heures dans d'autres sujets? Donc tu as beau dire que la langue arabe est importante, mais si tu ne l'apprends pas véritablement, que tu ne consacres pas ton temps à son apprentissage, où es-tu alors de cette importance? Cheikh Al-Islam Taymiyyah a formulé une remarque d'une grande profondeur à ce sujet. Il explique que la langue arabe fait partie de la religion et que sa connaissance est une obligation, car la compréhension du Coran et de la Sunna est elle-même une obligation. Or, une obligation ne peut être accomplie, comme nous l'avons dit, complètement que par ce qui la rend possible. Dès lors, apprendre la langue arabe devient, dans la mesure nécessaire, lui aussi une obligation. Comme on l'a dit, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ce sans quoi une obligation ne peut être accomplie devient lui-même obligatoire. Donc apprendre la langue arabe n'est pas uniquement une question de culture. C'est un moyen indispensable pour accomplir convenablement certaines des plus grandes obligations de l'islam. Il est également important de rappeler qu'apprendre la langue arabe ne signifie pas nécessairement parler constamment dans un registre soutenu avec toutes les personnes que l'on rencontre. On voit certaines personnes qui, pour montrer qu'ils maîtrisent la langue arabe, alors ils vont parler dans un langage très soutenu, carrément à être incompréhensible pour la masse des gens, tellement les mots sont devenus presque accessoires. Il faut se contenter d'un langage compréhensible. Les savants d'ailleurs faisaient une distinction entre la maîtrise de la langue et la manière de s'adresser aux gens. Et on a toujours vu qu'ils ont adapté leur discours à ceux qui les écoutaient. Ils parlaient de façon à être compris. Parce que la sagesse, elle consiste à transmettre la vérité dans des termes accessibles, non à rechercher une éloquence qui éloignerait les gens de la compréhension. Voilà pourquoi il n'y a aucune contradiction entre le fait de maîtriser la langue arabe classique et le fait d'employer, lorsque cela est utile, un langage qui est plus simple ou même le dialecte pour être compris d'un public qui ne saisirait pas certaines expressions littéraires. Tout à l'heure, on a parlé du dialecte. Oui, des fois, pour être compris, il peut être nécessaire de recourir au dialecte. Mais il ne faut pas délaisser la langue arabe. Il ne faut pas que le dialecte devienne la norme et la langue arabe secondaire. C'est précisément parce que cette langue, justement, elle occupe une place aussi fondamentale que les premières générations étaient particulièrement vigilants quant à sa préservation. Ils considéraient, comme on l'a dit, que les fautes dans la récitation du Coran et les négligences grammaticales comme des imperfections de langage grave, comme un risque pouvant altérer la compréhension même de la parole d'Allah et de celle de son messager. Parmi d'ailleurs les plus grandes erreurs qui se sont répandues à notre époque figure l'idée selon laquelle la grammaire arabe serait une science compliquée, réservée aux spécialistes ou aux universitaires. Certains vont même plus loin en cherchant à détourner les étudiants en sciences de son étude. On entend parfois dire à quoi bon apprendre le nahou? L'essentiel, c'est de comprendre les textes. D'autres affirment que le mot soit au nominatif ou à l'accusatif, cela ne change rien. Certains tournent même les grammairiens en dérision et présentent la science de la langue comme un domaine rempli de difficultés inutiles. Ce n'est pas important de s'attarder sur ces détails, et ainsi de suite. Une telle attitude est grave. Les premières générations, comme on l'a dit, n'ont jamais considéré la grammaire comme une science indépendante de sa religion. Elle l'a regardée comme un moyen indispensable de préserver le livre d'Allah et la sunna du messager. D'ailleurs, un adage dit que al-i'rab, c'est la parure de la parole. Parce que quand tu sais bien t'exprimer, on t'écoute. Une personne maintenant, même en français, qui parle avec un phrasé plein de fautes, on n'a pas envie de l'écouter. On voit qu'il y a des fautes dans la grammaire, dans la conjugaison. Ça ne donne pas envie de l'écouter. En revanche, une personne maintenant qui a une grammaire solide, qui utilise des syntaxes qui sont correctes, ça donne envie de l'écouter. Voilà pourquoi on dit que la grammaire, c'est la parure de la parole. C'est pas un simple embellissement stylistique. C'est que La grammaire permet de distinguer les significations voulues par le locuteur, l'interlocuteur. Comme on l'a dit, lorsqu'Allah il révéla le Coran, il le révéla dans une langue parfaitement maîtrisée par les Arabes de cette époque. Les compagnons comprenaient naturellement les tournures employées, les nuances grammaticales, les procédés de restriction, ce qu'on appelle les ellipses, les anticipations. Leur langue était saine. Ils n'avaient pas besoin qu'on leur codifie les règles de la grammaire. D'ailleurs, il est rapporté dans la biographie de certains imams que un jour, alors qu'ils partaient dans les contrées pour aller prendre les règles de grammaire auprès des bédouins, étant donné que les bédouins étaient ceux qui maîtrisaient le mieux la langue arabe à cette époque, alors, un jour, il passa devant un enseignant du Coran avec un enfant. Il était en train de lui enseigner la sourate Tabbat yada abi lahabin wa tab, mais il s'arrêtait. Il disait Tabbat yada pour essayer de faciliter à l'enfant l'apprentissage de cette sourate. Simplement, l'enfant, c'était un vrai arabe. Il ne savait pas commettre de fautes. C'était intuitif chez lui. Donc, lorsqu'il s'arrêtait, lui, il disait Tabbat yadan. Pourquoi? Parce qu'ici, il s'agit du duel des deux mains. Donc, normalement, les deux mains, on doit dire yadan. On ne doit pas dire yada. On enlève le noun parce que derrière, il y a ce qu'on appelle l'annexion. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Les deux mains de Abu Lahab. Donc à ce moment-là, on efface le noun. Mais quand on s'arrête, on n'efface pas le noun. Donc l'enfant, il ne savait pas effacer le noun. Il écoutait le verset, il le répétait, mais il ne pouvait pas commettre de faute. Alors l'enseignant le frappait, pensant que l'enfant était imbécile ou alors le provoquait et qu'il faisait exprès donc de ne pas s'arrêter sans effacer le noun et au contraire de le prononcer. Et alors cet imam qui était en train de justement compiler les propos des bédouins sur la langue arabe pour en retirer les règles et autres, lorsqu'il est passé, il lui a dit laisse-moi faire, je vais te montrer comment lui enseigner justement cette sourate. Et alors il lui a dit tabbat yada abi lahabin wa tab. Et l'enfant il a récité directement derrière tabbat yada abi lahabin wa tab. Il lui a demandé mais comment as-tu fait? Et alors il lui a expliqué la règle de grammaire, à savoir que lorsque maintenant il y a le duel avec une annexion, on efface le noun du duel, et que cet enfant, étant donné que c'était un arabe, il ne pouvait pas commettre de faute. Voyez comment c'était intuitif chez eux, chez les salafs. Mais après les conquêtes islamiques, des peuples entiers ont embrassé l'islam. Les Perses, les Byzantins, les Berbères, les Coptes et bien d'autres sont entrés dans cette religion. Ils apprirent la langue arabe eux aussi. Mais les erreurs, elles ont commencé à apparaître. Peu à peu, les fautes grammaticales se multiplièrent, jusque dans la récitation du Coran. C'est alors que les savants ressentirent la nécessité de codifier les règles de la langue, afin de préserver le livre d'Allah de toute altération. D'ailleurs, l'histoire rapporte que Aboul Aswad Do'ali, il fut l'un des premiers à poser les fondements de cette discipline. Sous l'impulsion des compagnons, sous ordre de Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu. Pourquoi? Parce que à force que les musulmans conquérissent des terres, qu'ils se marient avec des étrangères, qu'ils commercent avec ces étrangers, alors leur langue arabe commençait à être altérée. Il commençait à apparaître des fautes dans le Coran, dans le langage. Alors à ce moment-là, Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu a ordonné à Abul Aswad Douali, qui était connu pour être un grammairien, de partir et d'aller compiler justement les règles de grammaire, de pouvoir expliquer par la suite quand est-ce que le mubtada marfou' ou le khabar marfou' et ainsi de suite. L'objectif n'était pas de compliquer la langue ni d'imposer des règles artificielles. Il s'agissait simplement de conserver intacte la langue dans laquelle le Coran avait été révélé. Donc celui qui comprend cette origine, il ne regardera plus jamais la grammaire comme une science secondaire. Il comprendra qu'il est né au service du Coran. Il est vrai que certains ouvrages de grammaire peuvent paraître difficiles ou alors certaines explications, elles peuvent être difficiles. Mais ça revient à l'auteur, ça revient à l'ouvrage. Voilà pourquoi il est important aussi d'étudier avec des enseignants ou avec des ouvrages à notre niveau. Ce n'est pas tout le monde qui est adapté pour s'adresser à tout public. Il y a des personnes qui sont spécialisées, ils peuvent s'adresser à des universitaires ou autres. Il y en a d'autres qui, au contraire, ils ont une facilité de transmettre les informations, ils peuvent s'adresser à des gens de la masse. Voilà comment, donc, la personne doit se comporter. Donc, la grammaire, comme nous l'avons dit, c'est quelque chose d'important. Ce n'est pas un obstacle. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit « Wa laqad yassarna al-Qur'an al-dhikr fa hal min mudakir » Nous avons certes facilité le Coran pour le rappel. Y a-t-il donc quelqu'un pour réfléchir. Le Coran, il est en arabe. Si Allah tabaraka wa ta'ala a facilité son livre, il a également facilité les moyens qui permettent d'y accéder pour celui qui fait preuve de sincérité, de patience et de persévérance. Wa naktafi bihadha al-qadr. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.